de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La Nouvelle-Zélande revoit ses relations avec Hong Kong. Hong Kong signale une augmentation des infections locales à coronavirus pour la deuxième journée. Le gouvernement accorde toujours des concessions aux étrangers dépassés en Indonésie. Le président Jokowi assistera à la session annuelle de l'Assemblée consultative du peuple le 14 août. Le président soutient la création de l'Assemblée consultative mondiale. La sensibilisation du public est la clé d'empêcher la deuxième vague de COVID-19, a déclaré Erick Thohir. Le caldeira de Toba est désigné comme un géoparc mondial de l'UNESCO. Voici le journal complet. Le gouvernement néo-zélandais a déclaré jeudi qu'il réexaminait ses relations avec Hong Kong, qui comprendrait des accords d'extradition, le contrôle des exportations de marchandises stratégiques et des appels de voyage. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a déclaré dans un communiqué cité par Reuters que la décision de la Chine d'adopter une nouvelle loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong avait fondamentalement changé les conditions de la participation internationale à Hong Kong. L'annonce du gouvernement néo-zélandais est intervenue peu de temps après que son voisin, l'Australie, a suspendu un traité d'extradition avec Hong Kong. L'Australie a suspendu jeudi un traité d'extradition avec Hong Kong, affirmant que la nouvelle loi sur la sécurité avait endommagé l'autonomie de la ville. Hong Kong a signalé jeudi 42 nouveaux cas de virus corona. 34 d'entre eux sont transmis localement. Ce rapport marque deux jours consécutifs de flambée d'infection locale et fait craindre une nouvelle propagation. Le nombre total de cas au Centre financier mondial depuis la fin de janvier atteint 1366 avec 7 personnes mortes. Les autorités ont déclaré jeudi, comme le rapporteur Reuters, que le nombre de personnes à chaque table dans le restaurant était fixé à 8 au maximum, alors que 4 personnes au maximum pouvaient s'asseoir ensemble au bar. Ces restrictions s'appliquent à partir de minuit le vendredi. Le gouvernement indonésien autorise toujours les étrangers qui violent leur permis de séjour parce qu'ils ont dépassé la durée de la pandémie et sont passés à une nouvelle normalité. Cela a été dit par le directeur général du protocole et des services consulaires du ministère indonésien des Affaires étrangères, Andi Rahmianto, lors d'une session de dialogue virtuel récemment à Jakarta. Cette déclaration est conforme au règlement numéro 11 de 2020 du ministère indonésien de la Loi et des Droits de l'Homme concernant l'interdiction des étrangers temporaires d'entrer sur le territoire de la République d'Indonésie qui est entré en vigueur le 2 avril 2020. Basé sur ces règles, les étrangers n'ont pas à payer d'amende pour ces heures prolongées. Ces informations proviennent du site web officiel de la Direction générale de l'immigration du ministère de la Loi et des droits de l'homme d'Indonésie. En ce qui concerne le MOU, le gouvernement demande aux ressortissants étrangers en Indonésie de respecter les protocoles de santé comme le port de masque, le maintien à distance et l'évitement des foules. Le président Joko Widodo assistera à la session annuelle de l'Assemblée consultative du peuple le 14 août 2020 et rester en conformité avec le protocole de santé pour empêcher la transmission de la COVID-19. Cela a été dit par le président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, Bambang Susatyo, après avoir rencontré mercredi le président Joko Widodo au palais présidentiel à Bogor, dans l'ouest de Java. Selon Bambang, le président Jokowi a choisi d'être présent directement dans la salle d'audience de MPR pour montrer que le chef de l'État s'adapte à la nouvelle normalité et rester en conformité avec le protocole de santé. Le sens de l'adaptation mentionné par le président, selon Bambang, est que la vie doit continuer mais essayer toujours d'empêcher la transmission de la COVID-19. La session annuelle de l'Assemblée consultative du peuple cette année est avancée au 14 août et non au 16 août 2020, comme d'habitude, car le 16, c'est un jour férié. Lors de la session annuelle, le président Joko Widodo prononcera une allocution officielle. Le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, Bambang Susatyo, a déclaré que le président Joko Widodo avait soutenu la formation de l'Assemblée mondiale de Shura ou Assemblée consultative mondiale, initiée par l'Assemblée consultative du peuple d'Indonésie. L'un des objectifs est d'encourager la réalisation d'un ordre mondial islamique harmonieux, pacifique et civilisé. Dans sa déclaration, Bambang a déclaré jeudi à Jakarta qu'il avait rencontré le président au palais de Bogor mercredi. Bambang a estimé que le soutien du président Jokowi encouragerait davantage l'esprit de l'Assemblée consultative du peuple indonésien avant de déclarer la création de l'Assemblée consultative mondiale en août 2021. Bambang expliquait que l'Assemblée mondiale de Shura entamera également la formation de la Bourse mondiale de la Sharia, qui sera la réponse aux conditions chaotiques de l'économie mondiale en raison des longues périodes de capitalisme et de libéralisme. Le ministre des Entreprises d'État, Erick Thohir, a rappelé que la sensibilisation et la préoccupation du public dans la mise en œuvre du protocole de prévention de COVID-19 avec discipline est la clé pour prévenir la deuxième vague de la pandémie de cette maladie en Indonésie. Erick Thohir a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse en ligne à Jakarta qu'en plus de travailler dur, la sensibilisation et l'état d'esprit de la communauté étaient la clé du changement. Sinon, la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 émergera en Indonésie. Selon Erick, il a été prouvé dans de nombreux pays que la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 ne peut pas être arrêtée. Le ministère de l'entreprise d'État s'efforce actuellement de s'assurer que Biopharma est une entreprise leader et un secteur qui essaie de trouver des solutions pour le vaccin de COVID-19. Le caldeira de Toba est désigné comme le géoparc mondial de l'UNESCO lors de la 209e session du Conseil exécutif de l'UNESCO à Paris, la France, mardi. L'ambassadeur d'Indonésie auprès de l'UNESCO, Arman Atanasir, dans sa déclaration écrite mercredi, a déclaré que l'Indonésie pourrait développer le géoparc de Caldera Toba via le Global Geopark Network et Asia Pacific Geopark Network, en particulier en ce qui concerne l'autonomisation des communautés locales. Il a déclaré que le gouvernement indonésien a réussi à convaincre l'UNESCO que la caldeira de Toba a un lien géologique élevé et un patrimoine traditionnel avec les communautés locales, notamment en termes de culture et de biodiversité. Dans ce contexte, les pays membres de l'UNESCO soutiennent que la caldeira de Toba soit préservée et protégée dans le cadre du géoparc mondial de l'UNESCO. La détermination de la caldeira de Toba en tant que géoparc mondial de l'UNESCO offre une opportunité ainsi qu'une responsabilité pour l'Indonésie, en particulier pour la communauté locale. Outre la caldeira de Toba, l'Indonésie possède déjà 4 autres sites du géoparc mondial de l'UNESCO, à savoir Batur, Cilete, Gunung Sewu et Rinjani. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
«
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la pandémie de corona et les réfugiés Rohingyas. Le monde n'oublie certainement pas les Rohingyas, des musulmans de souche qui se sont installés à l'origine au Myanmar et sont maintenant des réfugiés. Expulsés de leur lieu d'origine de diverses manières, notamment en utilisant des bateaux, ils tentent de trouver des endroits plus sûrs dans d'autres pays. Les conditions sont de plus en plus difficiles lorsque les musulmans Rohingyas tentent toujours de trouver de nouveaux emplacements pour évacuer dans l'état de la pandémie de corona, comme c'est le cas actuellement. Les pays qu'ils visent tentent actuellement de limiter l'arrivée d'étrangers pour empêcher la propagation du virus de COVID-19. La Malaisie, qui est souvent l'objectif principal des réfugiés Rohingyas, déclare fermement qu'il ne peut pas les accepter en raison des conditions antérieures qui sont occupées face à la pandémie de corona. La situation actuelle des Rohingyas est également aggravée par la politique de pushback, l'autre pays de destination, à savoir la Thaïlande. Les réfugiés Rohingyas sont contraints de quitter les colonies qui ont été habitées de génération en génération en raison de la violence du gouvernement du Myanmar qui a conduit au génocide ou à l'extermination ethnique, en particulier en 2017. Plus d'un million de Rohingyas se trouvent actuellement au Bangladesh, un pays voisin qui serait le lieu d'origine de cette ethnie. Les Rohingyas eux-mêmes affirment qu'ils sont originaires de l'ouest du Myanmar, mais n'ont jamais obtenu le statut de citoyenneté claire du gouvernement du Myanmar. Au Bangladesh, les Rohingyas sont entassés dans des camps de réfugiés qui sont remplis de conditions loin d'être décentes. Il est prévu de les renvoyer au Myanmar. Devenir certainement leurs frères lorsque l'Indonésie était disposée à accueillir des boat people Rohingyas dans les eaux d'Aceh à la fin de juin en raison humanitaire. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, a officiellement enregistré les réfugiés Rohingyas qui étaient logés à Aceh. La question est, au milieu de l'atmosphère pandémique actuelle, que devraient faire les pays qui sont souvent les objectifs des réfugiés Rohingyas? En dilemme, car au milieu des craintes de la menace du virus coronavirus, il y a un fardeau de responsabilité humanitaire qui doit être porté. L'Indonésie a répondu à cela en mettant en avant un sentiment d'humanité. Il reste à voir comment d'autres pays réagiront également face au nombre de réfugiés Rohingyas qui continuent de chercher de nouvelles destinations au milieu de la pandémie dont personne ne sait quand elle sera terminée. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 juillet. On commence par le 10 juillet 1962. On orbite autour du premier satellite de communication du monde, Telstar, dans l'espace. Telstar est une série de satellites de communication composée de satellites Telstar 1 et Telstar 2. Le satellite Telstar a marqué une nouvelle ère de la communication électronique car il diffusait avec succès la première émission de la télévision du monde. On a lancé Telstar 1 le 10 juillet 1962 à l'aide d'une fusée Tor Delta. La NASA a lancé le circuit satellite Telstar. Quelques heures après le lancement de Telstar, la première émission de la télévision en direct au monde depuis la station terrienne d'Andover a réussi à traverser l'océan Atlantique. Dès lors, les humains ont commencé à entrer dans l'ère des satellites de communication. La suite, le 10 juillet 1973, l'indépendance des Bahamas. Le Commonwealth des Bahamas est un pays composé d'environ 700 îles dans la région des Caraïbes, la Floride, les États-Unis, situé à l'ouest, et Cuba, au sud des Bahamas. les Bahamas sont devenues une colonie britannique en 1718. Environ 8000 fidèles et esclaves britanniques ont déménagé aux Bahamas à la fin des années 1700 de New York, de Floride et de Caroline. Les Bahamas ont acquis leur indépendance totale le 10 juillet 1973. Depuis les années 1950, l'économie des Bahamas a progressé grâce à deux piliers de tourisme et des services financiers. Le 10 juillet 1985, le bateau Greenpeace Rainbow. On a bombardé le Warrior et l'a coulé dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Rainbow Warrior est l'un des noms de bateaux exploités par Greenpeace. Le premier bateau a été coulé par la Direction générale de la sécurité extérieure dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande le 10 juillet 1985 par sabotage. À cette époque, les activités de Greenpeace ont reçu une terreur massive parce qu'elles s'opposaient à l'expérience nucléaire française menée sur l'île de Mururoa autour de la Polynésie. Rainbow Warrior est l'un des trois bateaux que Greenpeace utilise pour mener son action contre la destruction de l'environnement aujourd'hui. Deux autres bateaux, Arctic Sunrise et Esperanza, étaient en action dans l'hémisphère nord jusqu'au pôle. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Hello.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Industrie se concentre sur la préparation de zones industrielles intégrées pour attirer les investisseurs. Le ministère de l'Industrie se concentre sur la préparation d'un certain nombre de zones industrielles intégrées ou KIT qui seront équipées d'infrastructures complémentaires pour de nouvelles activités commerciales. Dans le plan national de développement à moyen terme 2020-2024, le gouvernement propose la construction de 27 nouvelles zones industrielles. Le directeur général de la résilience, du régionalisme et de l'accès industriel international du ministère de l'Industrie, Dodo Widodo, a déclaré à Jakarta mardi le 7 juillet qu'il existe actuellement environ 12 500 hectares de terrain industriel prêts à être proposés aux investisseurs. Ils peuvent entrer n'importe où. Selon Dodi, le ministère de l'Industrie est en train de cartographier les zones industrielles gérées par les entreprises d'État pour être prêts à accueillir la relocalisation depuis la Chine. Selon Dodi, les zones industrielles situées le long de la côte nord de Java sont considérées comme ayant un attrait à offrir aux investisseurs potentiels car elles sont supérieures en termes de vitesse de chargement et de déchargement des exportations et des importations. En général, la relocalisation peut être dirigée vers toutes les zones de Java central et de Java oriental. Une zone qui est en cours d'accélérer son développement est la zone industrielle intégrée ou KIT Batang dans la province de Java central, qui a une superficie de plus de 4000 hectares. Cette zone est intensivement offerte aux investisseurs qui prévoient de délocaliser des usines de Chine et dans certains nombres de pays d'Asie du Sud-Est. L'investissement qui entrera dans la zone industrielle intégrée ou KIT Batang dans la première phase est estimé à 850 millions de dollars américains et a le potentiel d'absorber 30 000 travailleurs. Le développement de KIT Batang est priorisé pour concurrencer les zones industrielles des pays de l'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et la Malaisie. En plus de KIT Batang, 5 autres développements de la zone industrielle intégrée ou KIT ont été proposés pour être inclus dans la liste des projets stratégiques nationaux pour la période 2020-2024. Les 5 projets sont la zone industrielle de Brebes dans le centre de Java, la zone industrielle de Takalar dans le sud de Sulawesi, la zone industrielle de Tanjung dans le sud de Sumatra et les 2 zones industrielles potentielles dans le nord des Moluques, à savoir la Bidouweda et l'île d'Obi. Le président de l'Association indonésienne de la zone industrielle, San Iskandar, a reconnu que le centre industriel de Java attirait plus d'investisseurs que d'autres régions, car l'infrastructure était mieux préparée. Sur les 96 zones industrielles enregistrées par HKI, plus de la moitié se trouve à Java. Il a expliqué que la plupart des lieux se trouvaient dans l'ouest de Java, atteignant 27 zones. Mais au niveau national, il y a 70 gestionnaires de zones au sein de l'Association indonésienne de la zone industrielle, ou HKI, qui sont prêts à accueillir la relocalisation industrielle. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir. Pendam tertahan di bibirku.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel intitulé Le village touristique de Sendari à Yogyakarta. Le village de Sendari est un village touristique basé sur l'artisanat du bambou. L'artisanat de ce village touristique sont exportés à l'étranger comme l'Italie, Singapour, l'Arabie Saoudite et les Pays-Bas. Le centre de l'industrie du bambou de Sendari est situé à Sendon Tirtoadi, district de Melati, dans la région de Sleman. Il faut environ 45 minutes de route pour se rendre dans ce village à partir du centre-ville de Yogyakarta. L'expertise dans la fabrication d'objets artisanaux en bambou se transmet de génération en génération. Dans le passé, la majorité de ses citoyens travaillent comme artisans du bambou. Les matières premières de bambou pour la fabrication de produits artisanaux sont achetées dans la région de Kulon Progo. Ce centre a reçu le soutien du gouvernement local, de nombreux séminaires et séances d'information destinées aux artisans afin que ce centre puisse continuer à croître et à être créatif. Dans le village touristique de Sendari, il existe diverses formes d'artisanat telles que des assiettes en osier, des tables, des chaises et des séparateurs de pièces en bambou. Il y a aussi divers accessoires tels que la décoration de lampes et la calligraphie. Le prix varie, ça dépend de la qualité et de la complexité de la fabrication. Dans le village touristique de Sendari, vous pouvez également voir le processus de transformation du bambou du début à la fin. Le bambou est d'abord lavé de sorte que les plumes attachées disparaissent et ensuite séchées pour qu'ils ne pourrissent pas facilement. Le processus de séchage est encore effectué traditionnellement en utilisant la lumière du soleil. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et au revoir.
Thank you.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Serge Ritard, bonsoir. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois, vous allez écouter l'information sur le mouvement Partir de la garde-robe. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Chers amis, la communauté zéro déchet d'Indonésie invite les gens à s'engager à ne pas acheter de nouveaux vêtements pendant 3 mois dans le cadre d'une mise en œuvre à l'art de la mode pour réduire les déchets de mode et les déchets textiles. Le mouvement Partir de la garde-robe se déroulera du 15 juillet au 15 octobre 2020, où les personnes qui y participent sont invitées à rechercher de nouveaux vêtements alternatifs, tels que l'emprunt, la location, l'échange, la couture ou l'achat de vêtements d'occasion. Même acheter de nouveaux vêtements est toujours légitime. Si vous en avez vraiment besoin et que vous n'êtes pas simplement tenté par les tendances, en particulier lorsque vous achetez auprès de marques de mode durables et de marques locales pour soutenir les entrepreneurs touchés par la pandémie de COVID-19. Chers amis, Maurila Sofianti Imran, fondatrice de la communauté zéro déchet d'Indonésie, a expliqué que les temps ont évolué et que l'industrie de la mode évolue si vite. Diverses marques lancent activement de nouvelles collections dans le but de suivre la tendance. La mode rapide devient quelque chose de très demandé qui a un impact sur le comportement de consommation, où les gens n'achètent de nouveaux vêtements que pour suivre les tendances avec plus que ce dont ils ont besoin. Bien que l'industrie textile soit l'un des plus grands contributeurs à la pollution dans le monde, si elle n'est pas cochée, elle aura un impact négatif sur l'environnement et les humains. Lancé à partir de l'agenda mondial de la mode, les déchets textiles devraient augmenter de 60% entre 2015 et 2030. Le mouvement devrait être suivi par au moins 100 000 personnes qui enregistreront leurs engagements. D'ici le 14 juillet, peuvent contribuer à prolonger la durée de vie des vêtements à 9 mois et réduire les émissions mondiales de carbone de 30%. Les gens sont invités à devenir des consommateurs plus sages et à maximiser les vêtements disponibles. Mais l'achat de nouveaux vêtements n'est pas un problème tant que vous êtes motivé par les besoins. Pas seulement par les désirs ou simplement par la tendance. Chers auditeurs, c'est tout la rubrique L'Indonésie en couleur pour ce soir, intitulée Le mouvement partir de la garde-robe. Merci beaucoup et à la prochaine fois.
Sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi. Tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersayang.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Senyum pada bintang di langit, apa yang terjadi bila hati terasa awan kelabu menyelimuti kita. Oh, dan mengerti semua ini, ku renungkan lirihan hati ini ketika ku sendiri.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter la chanson de Bugis Sulawesi du Sud intitulée Tana Ogi Wanuaku. Chers amis, cette chanson de Bugis Tana Ogi Wanuaku raconte l'histoire de quelqu'un qui a quitté sa ville natale, Bugis, pour se battre pour ses idéaux dans un endroit lointain. La chanson créée par Anchi Larichi était populaire auprès d'un chanteur du sud de Sulawesi nommé Tendri Uke avec le genre pop malais. En 2019, deux jeunes de Bugis, Nur Al-Farisi et Rusdi, se sont réarrangés et ont de nouveau chanté la chanson dans le genre pop. Mon cher auditeur, voici la chanson Tana Ogi Wanuaku, chantée par Nur Al-Farisi et Rusdi. Bonne écoute.
Oh, kana rima bilai rilipu anu alai di cengua rusapa welai wanu aku tana ogi wanu aku wanu ala suraku indu ambu malapiku wa bukori ulau janji rialiku singkeru riatiku ya pahurewa matana ogi urun tupi usapai indo ambu malebiku aja tak betu renua marilah ribuan natipu minasaku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!